Radio Stable.
Morning Edition from NPR News.
Radio Rosanna Pipari.
Lo que se reproduce bien en la radio.
France Inter, le 18-20.
Mes enfants n'ont pas de papier. Je veux leur en faire faire. Avec leurs papiers, je peux les emmener à l'hôpital, à l'école et où je veux.
Et oui, pas de papier, pas d'école, pas de médecin, pas de vie à reconstruire. Vous verrez qu'en Jordanie, après avoir été un peu regardante plutôt, les autorités demandent aux réfugiés syriens de s'enregistrer pour avoir de vrais papiers. C'est ce qu'Aurélien Colli nous racontera dans l'Escale reportage ce soir. Sous les radars et Amélie Perrier, vous l'avez entendu en Russie, en Pologne et en Allemagne. 18h50, la chronique pour tous de Julia Foyce avec du Georges Clooney dedans et du congé paternité de 3 mois. 18h55, le monde à l'envers de Jean-Marc Four qui fête les 70 ans de l'OTAN ce soir et nous expliquera pourquoi on n'a pas fait mieux depuis. Avant cela, c'est en Turquie que nous allons. Le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Saint-Fès. Un jour dans le monde.
Il est vexé peut-être Recep Tayyip Erdogan d'avoir perdu les élections et notamment les élections à Istanbul, au municipal de ce week-end. Il conteste d'ailleurs les résultats dans les 39 quartiers de la ville. Istanbul, le symbole d'élections municipales au cours desquelles ce président Erdogan a beaucoup chuté. Bonsoir Dorothée Schmitt.
Bonsoir.
Vous êtes chercheuse responsable du programme Turquie contemporaine et Moyen-Orient à l'IFRI. Vous avez écrit « La Turquie en 100 questions » chez Dallandier. L'année dernière, en 2018, expliquez-nous Dorothée Schmitt en quoi ces élections municipales, la perte d'Istanbul, celle d'Ankara aussi, sont une défaite. Certes, on l'a beaucoup dit, mais plus encore peut-être un tournant politique en Turquie. D'abord, est-ce que c'en est un réellement ?
Alors d'abord, on ne sait pas si Istanbul est perdu pour le moment. Ça se joue à quelques milliers de votes, donc c'est très impressionnant parce qu'on est vraiment à 50-50. Et vous savez que l'AKP, donc le parti Tayyip Erdogan, conteste les résultats. Il les conteste à Ankara aussi. Et ça, c'est très intéressant parce qu'aux dernières municipales, on avait un vote à Ankara qui était très serré, où l'opposition avait contesté les résultats. Mmh. Donc là, pour moi, cette espèce de mise en scène de la contestation, elle est très impressionnante parce qu'elle montre que la confiance a changé de camp. C'est pas la peur, c'est la confiance cette fois-ci qui a changé de camp.
Ce qui est intéressant, c'est qu'Erdogan, alors est-ce qu'il sentait venir le vent du boulet ? Vous allez nous le dire. Il s'est beaucoup impliqué quand même dans ces élections. Il y a eu du meeting, il y a eu beaucoup de choses comme ça.
Je crois qu'Erdogan s'implique de toute façon beaucoup dans toutes les élections en Turquie depuis qu'il est arrivé, depuis qu'il a amené son parti au pouvoir en 2003. On a une situation pratiquement caricaturale en Turquie puisqu'on a eu 8 votations depuis 2014. Donc vous imaginez, les gens votent plus d'une fois par an en Turquie et à chaque fois on se retrouve avec un Erdogan qui est un chef de campagne et là c'était peut-être une erreur relative sur les municipales puisque beaucoup de votants ont dit que pour eux c'était la personnalité qui faisait l'élection et que donc ils votaient pour une personne qui allait diriger une ville ou des districts. Et en l'occurrence, Tayyip Erdogan, c'est déjà le président de la République. Donc il avait mis des proches comme candidat à Ankara-Istanbul, qui sont évidemment les deux villes les plus importantes, l'une parce que c'est la capitale politique et l'autre parce que c'est à la fois la capitale économique et puis le symbole. C'est 30% du PIB turc, Istanbul, et puis c'est le symbole de ce qu'on appelle cette Turquie noire, donc la Turquie islamiste de l'Est qui vient vers la Turquie de l'Ouest, plus occidentale, donc c'était très important. Il avait mis des fidèles comme candidats et ça n'a pas suffi face au candidat du parti kémaliste, du JEP, qui avait été plutôt bien choisi, avec à Istanbul un candidat assez discret qui a fait une campagne de rassemblement en disant qu'il serait le maire de tous les Stambouliotes et pas simplement de ses électeurs à lui. Et puis à Ankara, le candidat qui en fait est un transfuge du parti nationaliste qui avait déjà été candidat la dernière fois. Donc à chaque fois, on a des candidatures qui sont un peu plus centristes, si on veut, dans le contexte politique turc.
On va y venir à cet homme notamment qui a été peut-être élu ou pas d'ailleurs effectivement puisqu'il y a contestation à Istanbul. On parle beaucoup, à juste raison d'ailleurs, de médias qui sont cornaqués, de difficultés. Et c'est ça qui est aussi intéressant quand même, parce que est-ce que les Istanbulites et les autres les ont vus, les candidats de l'opposition, faire campagne ? Est-ce que au moins des télévisions les ont montrés ou est-ce que pas du tout en fait ?
Alors ça c'est ce qui est très intéressant dans cette élection, c'est qu'effectivement les conditions de la campagne ont été... comme je dirais toujours depuis 5 ans, extrêmement peu équitable, avec un AKP qui contrôle 90% des médias, tous les discours de Tayyip Erdogan retransmis en direct à la télévision, et donc finalement une très faible visibilité pour les candidats de l'opposition. Ekrem İmamoğlu, le candidat de du JEP pour Istanbul, dit qu'il a beaucoup fait campagne sur les réseaux sociaux et que jusqu'à présent, le gouvernement ne contrôle pas ça complètement, et puis qu'il a fait campagne sur le bouche à oreille. Mm-hmm. Bon, ça signifie quand même ça, qu'il y a une envie d'alternance qui commence à se manifester de la part de l'électorat en Turquie.
Un terrain qu'on avait vu lors des dernières élections générales, on avait même peut-être été trop vite en besogne d'ailleurs, on avait dit attention, il y a peut-être une opposition qui est en train de monter, et puis finalement Erdogan l'avait emporté relativement haut la main. Est-ce que c'était la marche de l'opposition pour mieux sauter là sur les municipales, ou est-ce qu'il faut complètement dissocier ces deux formes de scrutin-là?
Pour moi, le plus important, c'est que précisément ces élections-là, elles ont permis à la plateforme de l'opposition, donc à l'alliance des kémalistes et du IYI parti, qui est ce parti qui est une scission du parti nationaliste, elle leur a permis de monter une machine de campagne qui a été relativement efficace, de montrer une forme de cohésion qui n'était pas du tout évidente, parce qu'en fait ce IYI parti, il est apparu tout récemment dans le paysage politique turc, qu'on savait pas s'il aurait un avenir ou non. Donc ça montre que quand même on a aujourd'hui un AKP dont l'électorat s'érode. Donc ça c'est quand même très très important.
S'érode pour quelles raisons? Est-ce qu'on parle que de l'économie qui se porte pas très bien, ou est-ce qu'on parle aussi du côté très autoritaire d'Erdogan? Donc est-ce qu'il y a une espèce de ras-le-bol des deux côtés, ou est-ce que c'est uniquement une partie qui vote, soit économique, soit l'autre?
Je pense qu'il y a un phénomène d'usure du pouvoir qui se manifeste quand même. Il faut souligner qu'il est très important pour Erdogan de gagner les élections, parce qu'en fait c'est pratiquement le seul élément de la définition d'une démocratie qu'il conserve encore aujourd'hui. Il a une pratique populiste du pouvoir qui repose beaucoup sur la l'onction électorale. Mmh. Il a besoin d'avoir des élections tous les ans pour se faire plébisciter finalement. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il est allé lui-même à l'élection encore une fois. Donc ça, cet élément-là, il est quand même... Il démontre que le système Erdogan est plus fragile que ce qu'on pourrait penser.
Mais du coup, est-ce que c'est l'économie qui fait voter quand même, ou est-ce que le système qu'il a monté effectivement a trouvé aussi ses limites?
Alors l'usure du pouvoir, et puis bien entendu, on l'a beaucoup dit, cette crise économique en Turquie avec une inflation qui est autour de 25%, un taux de chômage qui ne cesse d'augmenter, le prix des produits alimentaires, des produits des biens de première nécessité qui a également beaucoup augmenté. Donc ça veut dire que l'électorat des toute petite classe moyenne d'Erdogan est évidemment touchée. Mais au cours des 6 derniers mois, l'AKP, donc le parti de Tayyip Erdogan, a pris beaucoup de mesures fiscales pour essayer d'alléger la charge du coût de la vie auprès des plus pauvres. Et on a une pratique pratiquement, je dirais, caudilliste du pouvoir aujourd'hui en Turquie. Ça nous rappelle vraiment des contextes latino-américains avec un clientélisme qui consiste vraiment à arroser le petit électorat de dons, hein, tout simplement, de cadeaux pour qu'ils votent Erdogan. Mais on a quand même une classe moyenne en Turquie qui aujourd'hui montre qu'elle peut éventuellement se détacher de Tayyip.
L'opposition dont vous parliez, qui a réussi à s'unir effectivement pour ces élections-là, est-ce qu'elle saura, selon vous, rester unie? Est-ce que c'est une union de circonstances effectivement qui porte ses fruits-là pour ces élections-là, ou en tout cas partiellement? Donc est-ce que c'est une bonne leçon? Est-ce qu'elle va le rester? Est-ce qu'il y a un vrai terreau pour que cette opposition reste unie ou pas?
Ça, c'est la question la plus importante pour l'avenir, parce que jusqu'à présent, Erdogan s'était montré extrêmement capable de... tout simplement diviser l'opposition, l'affaiblir par la division. C'est pas uniquement en pourchassant les militants du parti pro-kurde HDP, hein, ça c'est quand même le cas et ça continue, mais c'est tout simplement parce que les kémalistes étaient incapables de se renouveler, à la fois en termes de candidature, il n'y avait pas de nouvelles têtes, en termes de programme. Alors là, je sais pas si on peut dire qu'il y a vraiment une alternance complète au programme de l'AKP, parce que finalement, le programme de l'AKP, c'est un programme de parti attrape-tout. Donc Erdogan est allé chasser sur les terres d'à peu près tous les types d'électorats, hein, les nationalistes, les islamistes conservateurs, les islamistes moins conservateurs. Il a tapé un petit peu partout, je dirais. Mais c'est quand même vraiment pour moi cette espèce de besoin d'alternance qui se manifeste, qui est le plus important. Donc il faudra que le parti kémaliste en tire les conclusions, et il faudra voir si le IYI parti s'ancre durablement dans le paysage politique turc. Je rappelle que ce parti, c'est une scission du parti nationaliste qui aujourd'hui est allié à Erdogan. Donc le programme du IYI parti, le bon parti, est quand même extrêmement flou.
Le nouveau maire d'Ankara, on parlait de nouvelles têtes à l'instant, le nouveau maire d'Ankara, peut-être d'ailleurs encore une fois, parce qu'il y a contestation, s'appelle Ekrem İmamoğlu. Qui c'est ce monsieur? Est-ce que c'est un ambitieux? Est-ce que c'est vraiment une nouvelle tête sur laquelle il faudra compter? Est-ce qu'il y a des noms qui ont émergé? Est-ce qu'il en fait partie?
Alors, à Ankara, c'est Mansour Yavaş. Celui que vous citez, c'est pour Istanbul.
Oui, absolument. J'ai dit Ankara.
Ankara. Oui. Alors, c'est pas quelqu'un qui était très connu dans le paysage, mais enfin, il était quand même maire d'un district d'Istanbul. Et il considère que c'est sa discrétion qui a fait son élection. Mmh. Alors, c'est quelqu'un qui a fait une campagne effectivement discrète, mais qui s'est quand même permis d'annoncer sa victoire assez tôt, à un moment où, effectivement, vous savez ce qui s'est passé à Istanbul, c'est que l'agence officielle a cessé de publier les résultats à peu près 1%, quand il restait à peu près 1% des bulletins de vote à déposer, parce qu'on était à 5000 voix d'écart, ce qui est absolument rien pour une ville de 15 millions d'habitants. Donc, il a quand même pris la liberté, oui, c'est ça, d'annoncer sa victoire à Istanbul. Donc, ça veut dire que, quand même, il a envie d'y arriver.
Mais il y a une ambition qui va au-delà chez ce monsieur-là, ou pas? Est-ce que ça dit ça?
Pour le moment, on peut pas dire ça. Le maire d'Istanbul, c'est déjà énorme, puisque vous savez qu'Istanbul, ça a été aussi le tremplin politique de Tayyip Erdogan.
C'est peut-être pour ça qu'il y a une très grosse vexation aussi.
Il y a à la fois un gros enjeu sur Istanbul en tant que tel, en tant que ville, du fait de son poids politique, culturel, international, etc. Et puis, on a quand même très clairement une vexation personnelle de Tayyip Erdogan, parce que c'est sa ville. Enfin, il considérait que c'était sa ville, Istanbul.
En quoi est-ce qu'elle est vraiment la locomotive de la Turquie? Vous l'avez un peu expliqué, mais est-ce que ça veut dire qu'il peut y avoir un effet domino après? Une fois qu'on a Istanbul, effectivement, ça peut s'étendre après plus loin. Il faut rappeler quand même que les prochaines élections théoriquement législatives, elles sont lointaines. On est en 2023, il se passera beaucoup de choses.
Alors, je ne sais pas si Istanbul est vraiment une locomotive, parce que c'est un monde en soi. Et d'ailleurs, Binali Yıldırım, qui était le candidat de l'AKP aux élections, a dit si Istanbul était un pays, ce serait le 41e pays du monde. J'ai oublié la place exacte, mais enfin bon.
Une manière de faire oublier qu'Erdogan avait dit celui qui a Istanbul à la Turquie.
Oui,
donc,
exactement. Donc, on a une façon de surjouer aussi la spécificité d'Istanbul, mais Istanbul, c'est un bon échantillon démographique de la Turquie. C'est aussi une ville où il y a beaucoup de Kurdes, par exemple. Donc ça, c'est peut-être aussi une des choses qui a fait cette élection, puisque je vous rappelle que le parti du HDP, le parti pro-kurde, a renoncé à présenter des candidats dans les grandes villes pour soutenir l'alliance de l'opposition. Donc ça, c'est très important.
Et j'allais vous poser la question de la place de la question kurde dans cette campagne. Est-ce qu'elle a existé ou pas?
Alors, la question kurde, elle apparaît dans la campagne à différents étages, je dirais. D'abord parce que Erdogan a mené une espèce de campagne de diversion. Il n'a pas beaucoup parlé des questions économiques parce qu'il savait que c'était ça son point faible. Donc, il a beaucoup remonté l'électorat nationaliste. Il a beaucoup parlé de faire une intervention en Syrie contre le PKK, enfin les cousins du PKK en Syrie. Donc, la question kurde, elle apparaît sous cet aspect un peu régional au Moyen-Orient. Elle apparaît sous l'aspect de la lutte contre le terrorisme. Il a accusé toutes sortes de militants de toutes sortes de partis d'être alliés aux terroristes du PKK. Et puis, en réalité, le parti pro-kurde du HDP, qui traditionnellement est bien ancré à l'est, au sud-est de la Turquie, il était très mal en point, parce que vous savez qu'une centaine de maires avaient été déjà démis, remplacé par des gouverneurs appointés par l'AKP. Il est probable que d'ailleurs ils n'ont pas présenté de candidats dans un certain nombre de grandes villes aussi par manque de moyens, tout simplement, parce qu'il faut vraiment qu'ils concentrent leurs forces. Et ils ont perdu quelques villes à l'est, mais ils ont quand même regagné Van et Diyarbakır, deux villes dont les maires avaient précisément été destitués. Alors la question maintenant, c'est est-ce que ces maires vont pouvoir rester en place? Parce qu'Erdogan avait déjà menacé en amont de les destituer à nouveau s'il arrivait à prouver que ces maires soutenaient le terrorisme, entre guillemets.
Et précisément, est-ce que ces résultats sont de nature à infléchir la politique intérieure d'Erdogan? Est-ce qu'il réfléchit dans ce sens-là? Est-ce qu'il pourrait réfléchir dans ce sens-là? Ou pas du tout, bien au contraire, parce qu'il faut rester appuyé sur son socle.
Les grandes questions en politique intérieure maintenant, c'est l'état de l'économie. Là, je vois pas très bien ce que Tayyip Erdogan peut faire pour améliorer l'état de l'économie s'il ne remanie pas son équipe de fond en comble, parce que de toute façon, son ministre de l'économie ne donne pas confiance, qui est son genre, ne donne pas confiance aux investisseurs. La question kurde, sur laquelle il faudrait avoir une attitude plus ouverte, et c'est aussi ce qu'indique finalement la situation régionale, puisque vous savez qu'Erdogan, lui, menace de faire une intervention en Syrie, mais que personne ne souhaite qu'il la fasse. Donc tout le monde essaie de lui interdire d'aller en Syrie. Il n'a probablement pas les moyens de le faire. Donc il n'est pas impossible d'imaginer qu'un jour on va revenir à table de négociation avec le PKK, même s'il a passé la campagne à dire le contraire. Parce qu'en réalité, la Turquie n'a pas les moyens de continuer à combattre le PKK de cette façon. Donc ça, c'est très important. Ensuite, sur la gestion des autres dossiers, bon, si l'opposition redresse la tête, on peut imaginer qu'Erdogan ait des rapports peut-être un peu plus consensuel malgré tout avec son opposition, parce que je suis pas sûre que ce soit très facile de vivre encore dans la polarisation très forte qui a été celle qu'il a mise en place en Turquie. Et je m'intéresse notamment à un aspect qui est le rapport entre la Turquie et l'Union européenne. Vous savez que là, on a un scrutin européen bientôt. Ça veut dire que les campagnes politiques dans la plupart des pays de l'Union européenne elles mettent aussi le sujet de la Turquie sur la table, avec de plus en plus de voix qui s'élèvent pour dire qu'il faut cesser les négociations d'adhésion. Mais là, ce relatif revers de Tayyip Erdogan peut aider les Européens à tendre à nouveau la main à cette opposition, cette alternance potentielle.
Est-ce qu'on peut imaginer un relâchement dans les deux sens du terme, un relâchement dans l'autoritarisme d'Erdogan, mais aussi du coup relâcher un certain nombre de gens qui sont par exemple dans les prisons turques? Est-ce que c'est imaginable ou pas?
Alors, une autre question qui compte là-dedans, c'est l'ambiance interne à l'AKP. Il a été beaucoup dit en amont des élections que on avait des dissensions qui commençaient à se manifester. On a parfois dans la presse pro-AKP des éditoriaux qui sont un peu critiques, enfin qui admettent par exemple qu'on a eu un début de défaite électorale. Ça veut dire que le parti lui-même, je ne parle pas de l'électorat, il est aujourd'hui pas forcément toujours très satisfait de la gestion extrêmement autoritaire de Tayyip Erdogan, du système complètement pyramidal. Là, dans la mesure où les élections ne sont pas une défaite complète pour l'AKP, ça veut dire qu'il n'y aura pas de scission du parti, on ne va pas avoir des dissidences qui vont beaucoup se manifester. Mais il est possible malgré tout qu'on ait un début de débat interne qui se mette en place et que ça calme un petit peu Tayyip Erdogan.
Des choses qui bougent, Dorothée Schmidt. Merci beaucoup.
Je vous en prie.
Merci de votre passage dans Un jour dans le monde.
France Inter. Fabienne Saintès. Un jour dans le monde.
La suite, ça se passe en Jordanie, qui a donné un délai aux réfugiés syriens pour qu'ils s'inscrivent auprès des Nations Unies et auprès des autorités. Le délai, il a expiré il y a deux jours et Aurélien Collin nous racontera ça sous les radars et Amélie Perry avec notamment une affaire de maillot de bain en Russie et d'avion en Allemagne. Harry Potter au bûcher également. À 18h50, la chronique pour tous de Julia Foyce. Bonsoir Julia.
Bonsoir Fabienne, bonsoir tout le monde.
On lapide légalement chez vous ce soir.
C'est ça, et on appelle au boycott, vous n'irez plus très souvent au Plaza Athénée.
Ah, dommage. 18h55, le monde à l'envers, Jean-Marc Four et l'OTAN. Jean-Marc, l'OTAN, on l'aime ou on le quitte, mais finalement, ben, on le garde.
70 ans demain, gâteau d'anniversaire à Washington, sale ambiance, c'est le moment de dire vive l'OTAN.
Allez, à tout à l'heure, Jean-Marc. Gorillaz est sur France Inter, ça s'appelle Feel Good, ça date de 2005. Comme le temps passe, à tout de suite. Feel good dans Un jour dans le monde.
France Inter.
Good evening and welcome.
Yerasmakhil Kapion.
Un jour dans le monde.
Intervention extra.
Amélie Perrier, sous les radars, c'est l'histoire d'un auto-da-fé moderne ce soir.
Et cela se passe en Pologne. Des prêtres catholiques ont annoncé avoir brûlé ce week-end des livres de ce qu'ils honissent le plus.
Tu n'as jamais provoqué de choses que tu ne pouvais pas expliquer. Tu es un sorcier, Harry.
Je suis à quoi ?
Un sorcier. Un sorcier, sympa, a priori, c'est Harry Potter. Sauf que des prêtres à Gdansk ne l'entendaient pas ainsi. Sur la page Facebook de leur groupe religieux, ils ont posté des photos de la cérémonie du week-end. Les religieux portent des tomes de la saga Harry Potter et de Twilight jusque devant l'église pour y mettre le feu. On y voit aussi se consumer un parapluie Hello Kitty et puis un masque africain. Oui, allez comprendre. Ils récitent des prières, un extrait du Deutéronome. Vous brûlerez au feu leurs idoles. L'un des prêtres également exorciste de la paroisse, a expliqué vouloir remettre de l'ordre. Les objets brûlés sont associés à la magie et l'occultisme. Du côté de l'épiscopat polonais, on ne condamne pas, hein, on reconnaît l'existence de cet auto-da-fé, mais pas le moindre commentaire. Réaction mitigée sur les réseaux sociaux aussi, où les photos de la cérémonie sont devenues virales. La question, c'est quand même de savoir d'Harry Potter ou de Sécuré qui relève le plus de croyances obscures.
L'Allemagne, elle, Amélie, ne veut plus faire confiance à son parc aéronautique.
Un avion du gouvernement vient d'être victime d'une nouvelle avarie, une crevaison hier d'un train d'atterrissage. L'incident s'est produit à l'arrivée à New York, le chef de la diplomatie allemande se trouvait à bord. Et cela ressemble à du comique de répétition pour cet appareil, le Konrad Adenauer. Il effectuait hier son premier vol après 4 mois de maintenance, après 7 incidents.
Alors que les dirigeants du G20 débarquaient tour à tour en Argentine, la chancelière allemande atterrissait d'urgence à Cologne. Le Konrad Adenauer, nom de l'Airbus du gouvernement allemand, a dû faire demi-tour une heure après son décollage de Berlin en raison d'un sérieux problème technique. Voilà, Angela Merkel rate donc l'ouverture du sommet et le début des discussions.
Voilà cet extrait du journal d'Euronews en novembre dernier et fin janvier. Le président allemand Frank-Walter Steinmeier restait bloqué en Éthiopie, une panne d'un autre Airbus. Au début de l'année, le ministre du Développement renonçait à se rendre en Namibie, là aussi à cause d'une avarie technique sur son avion. Le ministre des Affaires étrangères, il y a un mois, se retrouve coincé lui au Mali, panne de son appareil. Et hier donc, le même Heiko Maas frôle la catastrophe, son avion crève en atterrissant. À New York, l'Airbus A340 a dû être remorqué vers une zone de parkage. Le gouvernement, pour l'instant, admet seulement que la flotte gouvernementale est réduite et relativement ancienne. Peut-être un moyen de réduire sa facture carbone en abandonnant tout simplement l'avion. En tout cas, lié ou pas, le chiffre est tombé aujourd'hui. L'Allemagne a vu ses émissions de gaz à effet de serre reculer de 4,2% sur l'année 2018.
Ça veut dire que les gens ont peur de prendre l'avion.
Je ne sais pas.
En Russie, on pourrait appeler ça la révolte des maillots de bain.
C'est une vague de soutien inédite à une enseignante. Elle a été contrainte de démissionner car elle a posé très légèrement vêtue sur les réseaux sociaux. Tatiana est prof de langue dans l'Altaï en Sibérie. Elle est fan de natation en eau froide. Elle publie souvent des photos d'elle en maillot dans des paysages enneigés. Un parent s'est plaint. La directrice de l'école l'a traitée de prostituée. Tatiana a fini par quitter son travail. Depuis une semaine, des milliers d'internautes postent des photos d'eux en maillot ou en sous-vêtements avec ce mot-clé. Les profs aussi sont humains et certaines collègues ont même fait ce clip. Alors on y voit des profs sur une plage, dans leur tailleur strict, puis en maillot. C'est un mouvement massif de soutien sur les réseaux sociaux. Face à tout cela, l'école de Tatiana lui a proposé de la reprendre. Elle a refusé. Le ministère de l'Éducation nationale, de son côté, lui a fait une autre offre. Donner des cours sur la gestion sécurisée des réseaux sociaux à ses collègues enseignants. On ne sait pas encore si elle a dit oui.
Ni comment elle va s'habiller.
Exactement.
Allez, merci beaucoup Amélie Perrier.
À demain.
France Inter.
Doha, Harare, Jérusalem,
Mecca. Le 18-20.
Le Mexique est juste derrière.
Un jour dans le monde.
Séoul, Washington,
San Paolo,
Beyrouth,
France Inter.
C'est en Jordanie que nous emmène l'escale reportage d'un jour dans le monde ce soir. La Jordanie et ses 600 000 réfugiés syriens, vous le savez, dont 80% d'entre eux ne vivent plus dans des camps, mais dans des zones urbaines. Et près de 300 000 d'entre eux n'ont pas de statut légal, pas de papier en règle. Or, la Jordanie, qui a été assez coulante jusque-là, commence à sévir. Elle veut désormais que les réfugiés soient enregistrés auprès de l'ONU et de l'administration jordanienne. Les réfugiés avaient un an, une année d'amnistie, en quelque sorte, pour se mettre en conformité. Le délai a expiré le 31 mars dernier, c'est-à-dire il y a deux jours. Bonsoir. Aurélien Colli.
Bonjour Fabienne, bonjour à tous.
Bonjour à vous. Vous êtes allé, Aurélien, à la rencontre de ces réfugiés syriens sans statut et des ONG qui les assistent pour se mettre en conformité.
On est à Irbid, dans le nord de la Jordanie, près de la frontière syrienne. Irbid est devenue la deuxième ville du pays en raison du nombre de réfugiés syriens qui s'y sont installés. Des réfugiés qui ont fui leur pays en laissant derrière eux la plupart du temps leurs documents d'état civil et qui ont quitté ensuite les camps de réfugiés sans être enregistrés auprès de l'ONU ou auprès des autorités jordaniennes, avec des conséquences très concrètes que décrit Kerry Dina. Elle dirige la branche jordanienne de l'ONG Mercy Corps.
Les documents officiels sont au cœur de nombreux problèmes des réfugiés syriens ici. Quand on fuit une guerre, ce n'est pas la première chose qu'on pense à emmener. Mais si vous n'avez pas les bons documents, notamment la carte de réfugié, vous ne pouvez pas obtenir d'autres documents, comme les certificats de mariage ou de naissance. Tous ces documents sont essentiels, car sans eux, vous n'avez pas accès aux aides et aux services, comme la santé, la scolarisation. Ça paraît mineur, mais ça a des implications multiples dans votre vie.
Assalamu alaikum. Bonjour.
Celui qui nous accueille maintenant s'appelle Ahmed. C'est un Syrien qui vivait déjà en Jordanie avant le début de la guerre civile en Syrie, mais qui a accueilli chez lui ses fils, leurs femmes et leurs enfants qui ont quitté le camp de réfugiés où ils avaient atterri. Sa maison, c'est 4 murs, un toit, 2 pièces, 30 mètres carrés. Les matelas sont à même le sol. Tout ça pour une vingtaine de personnes, mais la famille d'Ahmed est réunie.
Grâce à Dieu, j'ai récupéré mes deux fils. Ils étaient en Syrie, ils ont vécu la guerre, mais maintenant, ils sont là, avec moi. J'étais très content de cette amnistie, et tous ceux qui ont quitté les camps aussi. Que Dieu préserve celui qui est à l'origine de cette décision. Ça a vraiment rendu les gens heureux.
Alors la famille d'Ahmed a profité de l'amnistie pour régulariser sa situation. Carte de réfugié de l'ONU et carte du ministère de l'Intérieur jordanien pour chacun. De ces âmes qui ont changé leur quotidien, c'est ce qu'explique l'une des belles-filles d'Ahmed, Raouda, arrivée d'Alep en 2015 avec son mari. Deux sacs d'affaires, mais aucun document d'état civil. Leur première fille avait besoin d'une opération à la jambe et Raouda est tombée enceinte ensuite en Jordanie.
L'ONU nous aide avec tout. Sans eux, on ne peut rien faire. On a fait les papiers avec mes deux filles. Maintenant, je me sens en sécurité. Les deux ont des papiers, moi je suis libre. Je peux aller et venir. J'ai même pu faire opérer l'aîné. Je sens que j'existe.
On est maintenant à Mafraq, une autre ville du nord de la Jordanie, où l'ONG Mercy Corps a ouvert un centre d'aide juridique au cœur d'un quartier où vivent justement des réfugiés syriens. Celui qui gère ce centre est jordanien et il s'appelle Wissam Kader.
Les réfugiés n'ont pas d'informations, donc on utilise plusieurs moyens pour les atteindre. Premièrement, le centre ici, où ils peuvent venir quand ils veulent pour se faire aider. Deuxièmement, nos équipes qui vont sur le terrain à leur rencontre pour les enregistrer, comme dans le centre. Troisièmement, Internet. Les réfugiés utilisent beaucoup les réseaux sociaux, en particulier Facebook, pour communiquer entre eux ou avec leurs proches restés en Syrie. Donc on s'est dit qu'on pouvait l'utiliser pour communiquer avec eux.
Résultat, une page Facebook visitée par plus de 50 000 réfugiés. Elle a permis de rappeler l'importance de la régularisation, l'assistance juridique et financière aussi à leur disposition. Et c'est par cette voie qu'Ibrahim est venu au centre se faire aider pour ses démarches. Il était arrivé de Syrie en 2011. Il avait quitté son camp de l'ONU en 2013 sans aucun papier.
Quand j'ai quitté le camp pour m'installer en ville, je n'avais pas la carte du ministère de l'Intérieur jordanien. J'avais peur, car plusieurs fois, la police m'a arrêté et emmené au poste pour vérifier que j'étais au moins enregistré auprès de l'ONU. J'ai travaillé aussi, mais mes employeurs ne m'ont pas payé parce qu'ils savaient que je n'avais pas les bons documents pour travailler. Maintenant que j'ai mes papiers, je me sens plus en sécurité. Quoi qu'il arrive, je peux les présenter et il n'y a pas de problème. Mes enfants, Zena et Khaled, n'ont pas de papier. Je veux leur en faire faire. Je n'ai pas pu les enregistrer à leur naissance ici, parce que je n'ai pas d'acte de mariage et pas de livret de famille. Si tu n'as pas de quoi prouver que ce sont tes enfants, ils ne les enregistrent pas. Alors qu'avec leurs papiers, je peux les emmener à l'hôpital, à l'école et où je veux.
Si pour les autorités jordaniennes, 300 000 réfugiés syriens n'avaient pas de statut légal l'année dernière, les ONG jugent que le chiffre a été gonflé. Elles parlent plutôt de 100 000 personnes, dont la moitié régularisées au cours de l'année écoulée. Alors elles espèrent maintenant une extension de l'amnistie pour poursuivre les programmes d'aide à la régularisation, des programmes qui sont synonymes d'intégration. Pour Wissam Kader, avec qui on va terminer ce reportage, celui qui dirige le centre de l'ONG Mercy Corps à Mafraq.
Beaucoup de réfugiés nous disent que cette assistance leur sauve la vie, car on connaît des cas de réfugiés sans documents que la police jordanienne a renvoyés dans les camps de l'ONU et parfois même en Syrie. Et la majorité des Syriens n'ont pas l'intention de rentrer dans leur pays car ils n'ont plus confiance dans leur gouvernement. Donc ce programme de régularisation améliore leur situation, leur sécurité ici, leur permet de s'intégrer, de se sentir à nouveau chez eux. At home again.
Aurélien Colli à Beyrouth pour Un jour dans le monde. Merci beaucoup. Winston McAneuf est sur France Inter. Malcolm X. Attention!
Brother Malcolm X. Brother, see hidden brutality, yes, hidden brutality, yes, hidden brutality, yes, watch it, hidden brutality. Prospect was to see.
Malcolm X, Winston McAneuf sur France Inter. Mesdames et mesdames, voici Julia Foyce.
France Inter.
So I want all the girls that a new day is on the horizon.
Fabienne Saintès.
You are scared of girls.
Un jour dans le monde.
Me too.
Mesdames et mesdames et messieurs, vous pouvez rester spécialement aujourd'hui d'ailleurs. Julia, chaque semaine, chaque chose en son temps, vous nous donnez des nouvelles des femmes dans le monde, bonnes ou mauvaises. On commence donc par la femme de la semaine.
Qui est un homme, un américain, un acteur plutôt du genre engagé, un certain George Clooney, ça vous vous parle.
À peine.
Lui, il parle. Enfin, il écrit dans une tribune publiée sur le site Deadline. Il appelle au boycott des 9 palaces détenus dans le monde par le sultanat du Brunei, soit, par exemple, le Meurice et le Plaza Athénée à Paris. Oui, car, mis à part le fait que ce micro-État musulman d'Asie du Sud-Est est aussi l'un des plus riches au monde, c'est surtout l'un de ceux où l'application de la charia est la plus stricte. Or, à compter de demain, l'homosexualité déjà illégale devient un crime passible de la peine de mort par lapidation, de même que l'adultère d'ailleurs. Le chanteur britannique Elton John a rejoint l'appel de George Clooney dans la matinée. Cet après-midi, à son tour, le Quai d'Orsay a pris position, appelant le Brunei à renoncer à ce projet. Super. Sauf que le monde s'est régulièrement ému ces dernières années des atteintes aux droits de l'homme commises par le sultanat. Bizarrement, on a vite oublié. Le Meurice et le Plaza Athénée vont très bien. Se pourrait-il qu'il y ait un rapport avec le fait que le Brunei soit un état pétrolier assez accommodant? Non, je peux pas y croire.
Allez, on enchaîne avec l'objet de la semaine.
C'est un berceau un peu particulier mis au point par l'hôpital public d'Udaipur au Rajasthan en Inde. Comment il fonctionne? À quoi il sert? Mohamed Azif, pédiatre chopé par Arte Info, nous fait son petit tuto.
With the pressure of the baby, this alarm system.
Avec la pression du poids du bébé, une alarme se déclenche. Cette alarme alerte l'équipe qui va venir récupérer le bébé. Les parents qui ne voulaient pas de petite fille les jetaient dehors, dans les fourrés, dans les forêts et même dans les poubelles. On a donc créé ce système de berceau pour sauver la vie de ces bébés et notamment de ces petites filles abandonnées.
So to save the lives of the babies, this Palnagre was being formed.
Les 68 berceaux de l'hôpital ont permis de sauver 100 bébés en 2018, principalement des filles. Donc, dans les régions les plus pauvres de l'Inde, elles sont surtout vues comme un fardeau, c'est une dot qu'il va falloir rembourser. Des enfants qu'on élève pour d'autres, puisqu'une fois mariés, elles vivront sous le toit de la belle famille, alors que les garçons, eux, vont rester à la maison, vont pouvoir travailler, gagner de l'argent, mettre la main à la pâte et peut-être même débarrasser la table.
Oula, non, vous
ça non, ça non, pardon. Résultat, d'après Human Rights Watch, il manque aujourd'hui 80 millions de femmes en Inde et en Chine. Ouais, la Chine connaît le même problème, un déséquilibre qui entraîne tout ce que vous pouvez imaginer d'enlèvement et de mariage forcé, bah oui, parce que c'est ballot. Mais du coup, avec 80 millions de femmes en moins, c'est tout de même un tout petit peu plus difficile de trouver chaussures à son pied et femmes à marier. Du coup, l'Inde tente par tous les moyens d'endiguer le phénomène. Sur les réseaux sociaux, par exemple, le Premier ministre lui-même, Narendra Modi, avait lancé en 2015 ce hashtag « Selfie with daughter », encourageant les pères à se prendre en photo avec leurs filles. Alors, ça n'a pas forcément été des plus efficaces, d'où ce tour de vis supplémentaire. Aujourd'hui, les gynécologues ont l'interdiction formelle de révéler le sexe de l'enfant avant l'accouchement pour éviter les avortements sélectifs. Ils risquent 6 mois de prison s'ils le font.
Eh bien dites-moi, on termine avec le chiffre de la semaine.
24%, c'est le nombre moyen dans le monde de femmes siégeant dans des parlements nationaux. Le chiffre nous vient de la dernière étude menée par l'Union interparlementaire. Et pourtant, sur une cinquantaine de pays, c'est un petit peu mieux, un point de plus que l'an dernier. Ça progresse donc, mais toujours très lentement. Ça progresse surtout là où on a instauré des politiques de quotas, assorties de sanctions évidemment, sinon ça marche pas. Alors, peut-être, hein, idée. Balancer comme ça pour que ça avance plus vite. Et si, attention, hypothèse, si on allongeait les congés paternité, je veux dire, si on essayait de répartir un petit peu plus équitablement la charge parentale, rapport au fait que j'ai ouï dire qu'un enfant, bon, a priori, ça se fait à deux, et que donc éventuellement, ce serait pas totalement juste que seules les femmes doivent appuyer sur pause dans leur carrière. C'est ce que vient de faire l'Espagne. Les pères peuvent désormais prendre 8 semaines indemnisées à 100%. Les 2 premières sont obligatoires au moment de la naissance de l'enfant. Les 6 autres peuvent être prises quand on veut dans l'année qui suit. Les Espagnols ne s'arrêtent pas là, puisque d'ici 2 ans, le congé paternité atteindra les 16 semaines, soit strictement l'équivalent du congé maternité. En France, on est à combien? 11 jours. Allez, bonne soirée.
Allez, bonne soirée, Julia Foyce, et à mardi prochain.
Le 18-20, Fabienne Saint-Ès sur France Inter.
Le Monde à l'envers et Jean-Marc Four. Jean-Marc, à partir de ce soir et pour 48 heures, l'OTAN célèbre ses 70 ans d'existence avec plusieurs réunions, cérémonies qui sont prévues à Washington. L'Organisation de coopération militaire des Occidentaux est aujourd'hui remise en cause par les Américains eux-mêmes, en tout cas par Donald Trump. Son avenir donc est en question. C'est le moment de nous dire, vive l'OTAN, c'est votre monde à l'envers.
Drôle d'ambiance, hein, tout de même. Imaginez la scène, vous êtes invité à fêter votre anniversaire chez votre parrain et le parrain en question passe son temps à dire du mal de vous. Ben c'est un peu ça, le 70e anniversaire de l'OTAN à Washington. Vu que depuis plusieurs mois, vous le disiez, Donald Trump ne cesse de se plaindre du fonctionnement de l'organisation de l'Atlantique Nord et de ses 29 membres. Le président américain parle, je cite, d'un organe obsolète. Et à plusieurs reprises, il a évoqué une remise en cause de la clé de voûte de l'OTAN, son article 5. Il prévoit que tous les membres se portent secours en cas d'agression de l'un d'eux. Donald Trump exige que le financement de l'organisation soit plus équitable. Et soit dit en passant, il n'a pas tort, le financement américain reste largement supérieur en proportion du PIB par rapport aux financements européens. Et puis Trump n'aime pas, on le sait, les enceintes multilatérales, il préfère les accords bilatéraux. Par exemple, l'hypothèse d'une grande base américaine en Pologne revient régulièrement sur le tapis. On complète le tableau, on ajoute que la deuxième armée de l'OTAN, la Turquie, joue un rôle ambigu en cherchant à acheter des missiles sol-air russes. Et puis l'OTAN est régulièrement critiquée pour son échec militaire en Afghanistan ou en Libye, ou pour son retard dans la prise en compte de la cyberguerre. Donc oui, ça fait beaucoup, et tout ça peut laisser penser que l'avenir de l'OTAN est menacé.
D'autant qu'il y a désormais des projets parallèles, pour ne pas dire concurrents, de l'Europe de la défense.
Oui, mais justement, c'est là où il faut marquer une pause, parce que l'argument se renverse. L'Europe de la défense n'est pas prête, et ce n'est pas demain la veille, et c'est la première raison majeure qui incite à maintenir l'OTAN. L'Europe de la défense aujourd'hui, ce sont de beaux discours, plusieurs projets, mais finalement assez peu de choses concrètes. Oui, c'est vrai, il y a depuis un an un fonds européen de défense et des projets franco-allemands sur l'avion du futur ou sur le char du futur, mais on est loin du compte. Pourquoi ? D'abord, il y a un profond désaccord, voire un fossé culturel entre Paris et Berlin sur la question des ventes d'armes. Pour l'Allemagne, l'industrie de l'armement doit répondre à des critères éthiques. Pas question, par exemple, de livrer des armes désormais à l'Arabie Saoudite après l'affaire Khashoggi. La France, à l'inverse, n'y voit que du business. Ensuite, la grande pagaille du Brexit complique évidemment la donne sur la coopération militaire et stratégique avec le Royaume-Uni. Enfin et surtout, l'Europe ne se pense pas en termes de défense. C'est une arlésienne depuis les années 50 et la première tentative de constituer une communauté européenne de défense. L'Europe ne se voit pas comme une puissance militaire, ni en termes offensifs de projection sur des théâtres extérieurs, ni en termes défensifs. Et tant que ça ne sera pas le cas, que reste-t-il ? L'OTAN, CQFD.
Donc l'OTAN, faute de mieux.
Oui, c'est l'OTAN faute de mieux, c'est vrai, mais c'est l'OTAN aussi parce que aujourd'hui, il y a des menaces et qu'il vaut mieux avoir des moyens de se protéger. La Russie d'abord, elle est en passe de redevenir une sorte d'ennemi classique, ambiance de guerre froide, on le sait, développement d'un nouvel arsenal de missiles hypersoniques de moyenne et de longue portée, stratégie de conquête en Crimée, dans l'est de l'Ukraine, je vous fais pas un dessin. L'OTAN retrouve donc le rôle initial de sa création, faire face à Moscou en se dotant d'une capacité rapide de déploiement en quelques jours. Deuxième menace, la Chine, dans un autre registre, pas seulement l'armement classique, mais aussi l'armement technologique, la cyberguerre. Et sur ce terrain, l'OTAN est enfin en train de muscler son jeu avec la création à Mons, en Belgique, d'un centre d'opération qui sera dédié spécifiquement à cette lutte contre les cybermenaces. En fait, les Européens auraient tout intérêt aujourd'hui à prendre Donald Trump à son propre jeu, c'est-à-dire répondre à ses demandes financières, investir davantage dans l'OTAN pour mieux y revendiquer ensuite plus d'influence dans la prise de décision. Encore faut-il sur ce sujet, comme sur les autres, que les Européens avancent unis, ce qui n'est jamais gagné. En tout cas, dans ce monde qui, on le sait, est redevenu instable, voici le grand comeback de la vieille devise latine « Si vis pacem, parabellum, si tu veux la paix, tu prépares la guerre ».
Jean-Marc Fourré, Le Monde à l'envers. Merci beaucoup Jean-Marc, à demain. On reste ensemble, nous, pour Le Téléphone sonne juste avant. C'est le journal avec Frédéric Mettezeau. Ne changez rien, on s'occupe de tout.